إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخنا العلامة عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد شرعنا في شرح باب المحرمات في النكاح، وذكرنا أن المحرمات إلى الأبد وإلى الأمد. فأما المحرمات إلى الأبد فسبع من النسب، سبع من النسب. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل explication de منهج السالكين de l'imam Sa'adi رحمه الله تعالى. Et nous avions donc débuté l'explication du chapitre concernant المحرمات في النكاح، يعني les femmes interdites en mariage. Et on avait dit qu'il y avait deux catégories de femmes interdites en mariage. Celle yani, qu'on dit il est l'abed de manière perpétuelle, taïb, pour toujours. Et celles qui sont interdites il a amed temporairement. Taïb. Et on avait dit que le muharramat il est l'abed pour toujours. On avait commencé par mentionner les sept qui font partie des. De celles qui ont un lien familial avec la personne, avec le garçon. Voyez. Donc celles-là, elles sont interdites en mariage pour toujours. Voyez. Et on avait dit que Cheikh Sa'adi rahimahullah ta'ala avait dit que toutes les femmes qui ont un lien de sang avec l'homme lui sont toutes interdites en mariage, sauf les filles des oncles et des tantes, que ce soit des oncles et tantes paternelles ou maternelles, d'accord. Donc les cousines, en gros, les cousines, ne sont pas interdites en mariage. Toutes les autres filles qui ont un lien de sang, un lien familial avec yani, l'homme, elles lui sont interdites. Tayyib, na'am. Alhamdulillah. ثم ذكرنا سبعا من الرضاع، سبعا من الرضاع، وقلنا إن هذه السبع كالمحرمات من النسب، وبيانهن الأم من الرضاع والجدة من الرضاع وإن علت، فالأم التي رضعت وأمها وأم زوجها صاحب اللبن. Puis on avait évoqué donc les sept également qui sont interdites en mariage pour toujours à la personne, yani pas à cause cette fois d'une nasab, mais à cause de l'allaitement, à cause de ar-radha', c'est-à-dire l'allaitement. Et on avait dit que elles aussi étaient au nombre de sept. Donc la première, c'est la mère qui a allaité bien sûr la personne. Donc celui qui a été allaité par une femme, elle devient sa mère de lait. Elle devient donc sa mère de lait. Et lui est donc interdite pour toujours en mariage. Ainsi que la mère de cette femme. Donc la mère de cette femme-là devient sa grand-mère de lait. Et ainsi de suite. Donc la mère qui l'a allaitée, il y a la femme qui a allaité, ainsi que la mère de cette femme, et également la mère de son époux. Donc la femme qui a allaité cet enfant, donc elle est mariée à un homme. Cet homme-là, yani, qui est en vérité la cause du fait que cette femme-là, elle a du lait. Donc c'est la mère de cet homme, elle lui est également interdite en mariage. Voyez? Non. وثانيا البنت من الرضاع وبنتها وإن نزلت وبنت الابن من الرضاع وإن نزل أبوها أي البنت من الرضاعة وإن نزلت أي وبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وهكذا. Puis on avait dit qu'il y avait la fille de lait, donc la fille de lait, ainsi que sa fille, etc., ainsi que la fille de son fils. Yani, de son fils de lait. D'accord? Donc, si la personne a un fils de lait, eh bien, la fille de ce fils lui sera bien sûr aussi interdite, et ainsi de suite. Donc, la fille de lait, hein? Yani, celui qui est marié avec une femme qui a allaité une fille qui n'est pas la sienne biologiquement, mais le fait qu'elle ait allaité cette fille-là, cette fille devient donc sa fille de lait. D'accord? Et la fille de cette fille lui est aussi interdite, bien sûr. Voyez? Donc la fille de cette fille, ou sa petite fille, ou la fille de son fils, yani, lui sont aussi interdites. Naam. Thalithan, الأخت من الرضاع سواء من أمه التي أرضعته أو من زوجة أبيه من الرضاع أي بأنواعها الثلاثة الشقيقة طيب الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم من الفيديو aussi la sœur de lait la sœur de lait donc que ce soit du fait que sa mère elle ait allaité cet homme quand il était bébé donc du coup les filles de cette mère de cette femme deviennent ses sœurs de lait طيب ou alors par rapport ou par rapport à son père de lait. Donc s'il a un père de lait, eh bien son épouse, si elle a des filles, seront ses sœurs de lait. Les filles de cette épouse-là, de son père de lait, seront ses sœurs de lait. Et on parle ici des sœurs de lait, que ce soit des sœurs germaines ou des demi-sœurs, yani, qui sont du côté du père ou demi-sœur du côté de la mère, peu importe, ce sont toutes ses sœurs de lait. طيب. رابعا بنات الأخوات من الرضاع بنات الأخوات من الرضاع وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت من الرضاع. Quatrièmement, les filles des sœurs de lait. Donc s'il a des sœurs de lait, les filles de ses sœurs de lait lui sont interdites également. D'accord? Et également, bien sûr, les filles des filles de la sœur de lait. Ou les filles du fils de la sœur de lait. Elles sont toutes interdites. خامساً بنات الإخوة من الرضاع وكذلك بنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ من الرضاع. Cinquièmement, les filles de ses frères de lait. Donc s'il a des frères de lait, eh bien les filles de ses frères de lait lui sont interdites. Également, la fille du fils du frère de lait ou la fille de la fille du frère de lait. Et elles sont toutes interdites. Sadisan, al-ammatu min al-radha. Al-amma min al-radha. Wa hiya, ukhtu zawji al-mar'ati allati arda'at, ay ukhtu sahib al-laban, fa hiya ammatun wa kadhalika ukhtu abihi. أخت أبيه عمه نعم نعم إذن العمة من الرضاع وهي أخت زوج المرأة التي أرضعت، أي أخت صاحب اللبان فهي عمة، وكذلك أخت أبيه عمة، فيقال فيها أيضا العمة وإن علت. دونك سيزيامون لا تانت دو لي. طيب لا تانت يعني باترنيل دو لي، c'est-à-dire la sœur de l'époux de la femme qu'il a allaité. Donc il a été allaité par une femme, cette femme elle a un époux, et cet homme, cet époux, il a des sœurs, d'accord? Donc ces sœurs, ce seront les tantes de lait, deviendront les tantes de lait de ce garçon qui a été allaité par cette femme-là, d'accord? Donc les sœurs de Sahib al-Laban, les sœurs de cet homme-là, qui a été la cause que cette femme avait du lait, d'accord? Donc ça sera donc sa tante paternelle de lait, et c'est donc la sœur, ici la sœur de son père de lait, d'accord? La sœur de son père de lait. Naam. وسابعا الخالة من الرضاع، الخالة من الرضاع وهي أخت المرأة التي رضعت، وكذلك أخت أمها وهكذا. Puis enfin septièmement on a la tante au niveau du côté de la mère, au niveau de la femme, c'est-à-dire la sœur de la femme qui l'a allaitée. Donc la sœur de la femme qui l'a allaitée devient bien sûr sa tante aussi côté maternel de lait, et également la sœur de sa mère et ainsi de suite. ثم ذكرنا ماذا المحرمات بالمصاهرة، وقلنا إنها أربع. الأولى أصول الزوجة من الإناث. Puis pour résumer aussi, on avait mentionné les quatre femmes qui sont interdites en mariage pour toujours à cause de quoi? À cause du lien de mariage. À cause du lien de mariage. Donc on a, elles sont au nombre de quatre. Premièrement les parents de l'épouse. D'accord? Yani les parents, c'est-à-dire les mères de l'épouse, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc. Donc toutes les mères de l'épouse sont interdites pour toujours à l'époux de l'épouse. Athaniya, furu'u zawjati min al-inath. Également les filles de l'épouse. Les filles, les petites filles, petite fille de l'épouse sont interdites à cet homme. Thalitha zawjatul usul. Zawjatu al usul. Et également les épouses de ses pères. Donc l'homme, il a son père, les épouses de son père lui sont interdites en mariage, ainsi que les épouses de son grand-père, de son arrière-grand-père, ainsi de suite. Rabi'a zawjatul furu'. Et également les épouses de ses fils. Donc s'il a des fils, les épouses de ses fils lui sont à jamais interdites en mariage. Wa qulna innahu yahrumu min raqm 1 wa 3 wa 4 al-raqm 1 3 wa 4 bil 'aqd wa yahrumu raqm 2 bil dukhul bil umm. On avait dit donc que on avait les trois qui sont les parents, yani les mères de l'épouse, les épouses des pères, et enfin les épouses des fils, elles sont interdites à cause du contrat de mariage. Yani le simple fait d'avoir contracté un contrat de mariage avec une femme, cela rend du coup ses mères ainsi que les épouses des fils ainsi que les épouses des pères interdites. Alors que le numéro 2, c'est-à-dire les filles de l'épouse, elles ne seront interdites pour toujours que s'il a consommé le mariage. Ça veut dire que s'il n'a pas consommé le mariage avec cette femme avec laquelle il a contracté un contrat de mariage, mais ils ont, yani, par exemple, ils se sont divorcés, il l'a répudié avant d'avoir consommé Ce mariage, eh bien, il pourra par la suite se marier avec ses filles. Se marier avec ses filles. Mais s'il consomme le mariage, il ne pourra plus jamais se marier avec ses filles. Non. Même s'il divorce après. Vous voyez? Non. ثم قال المؤلف رحمه الله وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها والمعتدة سبحان الله نعم والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجلها والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم. Donc, également, sont interdites celles qu'on dit muhrima, celles qui ont l'état de ihram, jusqu'à ce qu'elles sortent de l'état d'ihram. Voyez. ومن هنا بدأ بنوع الثاني من المحرمات إلى أمد. فيحرم نكاح المحرمات إلا أن تحل من إحرامها. لحديث عثمان بن عفان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أخرجه مسلم. Donc, à partir de là, l'auteur, il a évoqué ici la deuxième catégorie de femmes interdites en mariage temporairement, et il dit celle qui est en état de ihram, jusqu'à ce qu'elle sorte de son état de ihram, de sacralisation. Et cela en vertu du hadith d'Uthman ibn Affan, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la yankihu al muhrim, celui qui est en état de muhrim ne peut pas contracter un contrat de mariage, wala yunkih, ni pour lui-même ni pour quelqu'un d'autre, wala yakhtub, et il ne demande pas en mariage qui que ce soit. Hadith rapporté par Muslim. Wal mu'tadda, al mu'tadda min al ghayr, celle qui est en état de viduité, de idda. D'accord? De quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que son délai de viduité, bien sûr, arrive à terme. Et il a un tentahia iddatuha. Liqawlihi ta'ala, wala ta'zimu uqdata nikahi hatta yablugha al-kitabu ajala. C'est-à-dire jusqu'à la fin de sa période de viduité. Donc cette femme-là, qui est en état de, qui est en plein dans sa période de viduité, elle est interdite en mariage, mais temporairement, d'accord, jusqu'à la fin de sa période. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, et ne contracter yani, aucun contrat de mariage jusqu'à ce que le terme de cette période-là de viduité soit terminé. Vous voyez? لغير الحامل ثلاثة قروء أو عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشر أو عدة حمل وعدة الحامل أن تضع حملها والآيسة إذا طلقت فثلاثة أشهر. Donc par rapport à المعتدة on a dit ça, son interdiction au mariage se termine à la fin de sa période de idda, de viduité. Voyez? Donc, si c'est une idda de divorce, par exemple, celle qui a été divorcée doit respecter une période de viduité, de idda. Pour celle qui n'est pas enceinte, cette période-là sera de trois qurous, c'est-à-dire trois menstrues. D'accord? La divorcée, qui n'est pas enceinte, elle devra attendre trois menstrues. Pendant ces trois menstrues, elle sera interdite en mariage, temporairement, bien sûr. Puis on a la idda du décès. Donc celle qui a perdu son mari, elle a une idda à respecter, qui est de 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours. Puis on a la idda de celle qui est enceinte. La idda de celle qui est enceinte, eh bien, elle se termine à quel moment? Elle se termine à l'accouchement, lorsqu'elle accouche de son bébé. Quant à la idda de celle qui n'a pas de menstrue, elle est ça, celle qui n'a pas de menstrue, lorsqu'elle est divorcée, sa idda sera de 3 mois. Ça y est, sera de 3 mois. Naam. وزانيته على الزاني وغيره حتى تتوب. حتى تتوب، نعم، لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وإذا تابت الزانية وانقضت عدتها حل نكاحها لزان وغيره. Puis celle qui est également interdite en mariage temporairement, la fornicatrice. Donc la fornicatrice ne pourra être mariée ni au fornicateur, ni à quelqu'un d'autre parmi les hommes, tant qu'elle ne s'est pas repentie. Tant qu'elle ne s'est pas repentie. Cela en vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, et la fornicatrice, on ne la marie pas, ou elle ne peut avoir de relation qu'avec un fornicateur ou un polythéiste, et elle est interdite aux croyants. Elle est interdite aux croyants. Ça veut dire que tant qu'elle n'a pas fait le repentir de sa fornication, elle ne pourra pas se marier à qui que ce soit. Donc lorsque la fornicatrice aura fait le repentir et que sa période de idda se termine, naam, dans ce cas-là, il sera permis donc de la marier, yani que ce soit au fornicateur ou à autre que lui. Naam. فإذا تابت هذه الزانية وصحت توبتها فإنها تحل للمسلم العفيف وتعرف توبتها بإقلاعها عن الزنا وندمها على فعله وعزمها أن لا تعود إليه مرة أخرى. Donc, lorsque la femme, cette fornicatrice-là, s'est repentie et que son repentir, bien sûr, est valide, eh bien, elle sera, à ce moment-là, licite en mariage au musulman chaste. Le musulman croyant chaste, bien sûr. Et son repentir, on saura qu'il est valide lorsqu'elle aura délaissé complètement la fornication, d'accord? Deuxièmement, lorsqu'elle aura regretté sincèrement cet acte-là et qu'elle mette l'intention ferme, hein, et qu'elle soit déterminée à ne plus jamais retourner une autre fois dans ce péché ignoble. Wa tahrumu mutalaqatuhu thalathan hatta tankiha zawjan ghayrahu wa yada'aha wa yufariquha wa tanqadhi 'iddatuha liqawlihi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu ولا بد أن يطعها الزوج الثاني لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول أخرجه البخاري ومسلم. Puis il parle ici de celle qui est interdite en mariage temporairement, celle qui a été divorcée 3 fois. Donc la femme qui a été divorcée 3 fois, elle ne peut ni se remarier avec cet homme qui l'a divorcée, jusqu'à ce qu'elle ait épousé un autre homme que lui, et que cet autre homme ait consommé le mariage avec elle, puis qu'il l'ait divorcée, et qu'après, sa période de viduité a été terminée. Dans ce cas-là, elle redeviendra licite au premier homme. Mais avant cela, elle lui sera interdite. D'accord ? Donc celle qui a été divorcée 3 fois. Et cela en vertu de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset. Et s'il la divorce, elle ne lui sera pas licite après cela, jusqu'à ce qu'elle ait épousé un autre homme ou un autre époux. Donc il faut impérativement, par contre, que ce deuxième époux, ce second homme, et consommer le mariage avec elle. D'accord ? Ça veut dire que s'il a contracté le contrat de mariage, mais qu'il n'a pas consommé avec elle le mariage, elle ne redeviendra pas licite, même s'il la divorce. Il faut qu'il ait consommé le mariage. Et cela en vertu de la parole du hadith d'Aïcha, qui a dit qu'un homme avait divorcé donc sa femme 3 fois, puis cette femme-là, elle s'est mariée. Cette femme-là, elle s'est mariée, et elle a été divorcée. On a interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son sujet, sur est-ce que elle redevient licite au premier qu'il avait divorcé. Il a répondu non, tant que le deuxième homme n'a pas yani, consommé le mariage avec elle, comme le premier l'avait consommé le mariage avec elle. Donc si le deuxième ne consomme pas le mariage avec elle, elle ne pourra pas, même si elle est répudiée, retourner au premier hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. طيب وهذا يعني عدة الطلاق عدة الطلاق من الزوج الآخر وهي ثلاثة قروء وهي ثلاثة قروء لمن تحيض وثلاثة أشهر لمن لا تحيض ويكون طلاقه لها بتوعه واختياره ولا يكون للتحليل فإن ذلك هو التيس المستعار ولا يعتبر تحليله بل تبقى يعني تبقى محرمة على الأول تبقى محرمة على الأول يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له donc ici lorsqu'on a dit lorsque la femme a été divorcée trois fois puis elle s'est remariée avec un autre homme avec lequel elle a consommé le mariage, puis cet homme-là l'a divorcé, eh bien sa idda, sa période de viduité, sera de trois menstrues. Si elle a ses menstrues, et s'il fait partie des femmes qui n'a pas ses menstrues, ce sera trois mois. D'accord? Mais attention, une chose très importante ici, le deuxième mariage qu'elle a contracté avec ce deuxième homme, il ne faut pas qu'il l'ait fait yani pour elle, pour qu'elle puisse se remarier, ou pour le premier homme, qu'ils puissent se remarier ensemble. Parce que là, ça rentre dans la ruse. D'accord? Il faut qu'il ait fait ce contrat de mariage, yani avec cette femme-là qui a été divorcée, de son plein gré, de par sa volonté, de son désir réel, son désir réel de se marier avec elle. Pas juste pour la rendre licite au premier. D'accord? Ça, c'est interdit totalement. D'accord? C'est comme si il faisait don de sa personne juste pour satisfaire le premier homme pour qu'il puisse reprendre sa femme qu'il avait divorcée trois fois. D'accord? Donc s'il fait cela, cela bien sûr ne la rendra pas licite au premier homme. Au contraire, elle restera illicite au premier tant que ce n'est pas un mariage qui est sincère et qui a été fait par envie, par désir, et non pour utiliser cela comme une ruse rendant ainsi la femme licite au premier homme. D'accord? Il dit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah maudisse el muhallil. Qu'Allah maudisse el muhallil. C'est-à-dire celui qui s'est marié exprès pour rendre cette femme-là licite encore une fois à l'homme qu'il avait répudié déjà trois fois et qu'il maudisse aussi l'homme qui a demandé ça à l'autre. Donc le premier homme qui avait divorcé la femme et qui a demandé à un autre homme de se marier avec elle et puis qu'il la divorce pour qu'elle puisse revenir à lui, Allah, yani, le prophète, il a fait une invocation contre eux, il a appelé la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala sur ces deux-là. Wallahu musta'an. جيد. ثم يقول ويجوز الجمع بين الأختين بالملك أي بملك اليمين فيجوز أن يشتري أختين يستخدمهما ولكن لا يطعهما معا فإذا أراد الوطأ فإنه يختار واحدة ويتجنب الأخرى لدخولهما في عموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف نعم Puis il dit l'auteur ici, rahimahullahu ta'ala, et il est permis de réunir entre deux sœurs, yani par rapport aux esclaves. Par rapport aux esclaves. Il sera permis de réunir entre deux sœurs par rapport aux esclaves. Donc on avait vu que pour les femmes libres, il était interdit à l'homme de se marier avec deux sœurs en même temps, simultanément. Par contre, par rapport aux esclaves, il lui est permis de posséder deux sœurs esclaves, de posséder,
pas d'avoir des rapports avec elle, mais de posséder deux sœurs esclaves. Ça y est, donc il peut acheter par exemple deux sœurs simultanément qui vont yani être à son service et travailler pour lui. Mais il ne pourra pas avoir des rapports yani avec les deux. D'accord? Ça veut dire que si il veut avoir des rapports, il devra choisir l'une d'entre elles. Il devra obligatoirement choisir l'une d'entre elles et il ne pourra plus à partir de là avoir des rapports avec la seconde. D'accord? Pourquoi? Parce que elles aussi, elles entrent dans la parole d'Allah. Tabarak wa ta'ala de la sourate An-Nisa, le verset 23, dans lequel il dit, dans le sens du verset, et il vous est également interdit d'épouser yani, d'avoir pour épouse deux sœurs simultanément, et ce qui a pu être fait dans le passé est pardonné. Donc les sœurs esclaves rentrent également dans cette interdiction-là. D'accord? Naam. Walakin idha wati'a ihdahuma لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء يعني إذا وطئ الكبيرة مثلا تجنب الصغيرة ولا تحل له الصغيرة إلا إذا حرمت عليه الكبيرة ببيعها أو تزويجها من غيره ولا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة فإذا تحقق من براءة رحمها زوجها. Et pour finir, inshallah ta'ala. Mais donc, on a dit, lorsque il a eu des rapports avec l'une de ses deux sœurs, il ne pourra plus avoir des rapports avec la seconde. Jusqu'à ce que celle avec qui il a eu des rapports lui redevienne interdite. Comment? En la franchissant. Donc, s'il la franchit, il libère la première esclave avec qui il a eu des rapports, il la libère. Du coup, il pourra avoir des rapports avec sa sœur, parce qu'elle est devenue libre. Ou alors, en la mariant avec un autre homme. D'accord? Donc, s'il la marie avec un autre homme, après ce qu'on appelle al-istibra, on verra c'est quoi, inshallah ta'ala, il pourra du coup avoir des rapports avec la seconde. D'accord? Donc, si par exemple, il possédait deux sœurs, une aînée et une cadette, s'il a eu par exemple des rapports avec l'aînée, eh bien, il ne pourra pas avoir des rapports avec la cadette. Elle ne sera pas licite, sauf si l'aînée lui redevient illicite en la libérant. En la libérant par exemple, ou alors en la vendant à quelqu'un d'autre. En la vendant à quelqu'un d'autre. Donc si elle devient l'esclave de quelqu'un d'autre, il pourra avoir des rapports avec la seconde, avec la cadette. Ou alors en la mariant avec quelqu'un d'autre que lui. D'accord? Par contre, avant de la marier, vu qu'elle a eu des rapports avec lui, il faudra qu'elle attende, il y a une période de menstrue, ce qu'on appelle en arabe al-istibra. Al-istibra, c'est quoi? C'est, il faut qu'elle attende une période de menstrue pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte. D'accord? Donc, une fois sa période de menstrue terminée et que on est sûr du fait qu'elle ne soit pas enceinte, il pourra la marier et dans ce cas-là, il pourra avoir des rapports du coup avec sa sœur. Avec la sœur de cette femme-là. Taïeb. Alhamdoulilah. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته